Je vais d'abord exprimer un témoignage, enfin une rencontre que j'ai eue avec une personne qui m'a touché dernièrement. Donc cette rencontre, elle a eu le 9 octobre, et je vais l'appeler Madame Turiki, je lui donne un nom. Et donc j'étais venu faire un dépannage chez cette femme, problème électrique, et puis sur les 4 heures que je suis resté là à faire le travail, on a parlé de Dieu. Et j'ai eu la surprise de me rendre compte que cette femme était, par le Père, elle était musulmane, et par la Mère, elle était chrétienne. Et elle lisait donc le Coran, et elle lit la Bible. Alors, j'ai pas eu le temps de lui demander, que je comprenais pas trop, parce que c'est incompréhensible. Voilà. Mais bon, Elle est par les deux côtés, je dirais, par le sang. Elle est unie avec deux choses, par le Coran et par la Bible. Et donc, son problème électrique était important, et je lui ai dit, madame, on va faire un devis, parce qu'il faut que je revienne, il y a des choses à faire. Et je suis revenu donc le 16 décembre, et on a pu parler un peu plus longuement, mais toujours très sans déborder. Et elle a parlé des juifs. Alors j'ai écouté attentivement et ça m'a attristé. Parce que les juifs, non, ils n'ont pas de terre. Ils ne devraient pas être là. Qu'est-ce qu'ils font en Palestine? Qu'est-ce qu'ils font là? Alors moi qui suis un petit peu... les juifs, c'est quand même pour moi important, et je suis sensible à ce qu'ils vivent. Et je lui dis, écoutez madame, voilà, mettez-vous à leur place, petit pays, autour d'eux, une immensité de gens qui leur veulent du mal. Il y a une fatwa, c'est une décision de droit ou de religion, donc c'est un mufti qui va donner l'ordre de faire quelque chose. Et là, cet ordre, c'est de détruire Israël. Et là, j'ai dit, imaginez que vous êtes un tout petit pays et autour de vous, on veut votre mort, qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de se défendre. Bon, j'ai pas été plus loin, parce que c'était pas l'endroit, mais on a une estime mutuelle, parce qu'à la fin de la journée, c'est pas une prière, mais il y a eu une mutualité. Mutuellement, on s'est donné une bénédiction. Donc, gloire à Dieu, quoi. Il y a quelque chose. Dieu nous transcende, nous dépasse et dépasse les limites de chacun. Alors, moi, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette région du monde où c'est la guerre, où il y a Israël d'un côté et les musulmans, les musulmans, parce que tous ces gens sont contre eux. Et donc, c'est la suite, en fait, j'ai trouvé cette réponse-là dans ce livre-là, c'est la suite du premier message que je vous ai donné, c'est un peu l'explication de ce qui se passe entre Israël et Ismaël, donc les musulmans. Donc, on doit partir de la Genèse. Donc, j'ai pris Genèse 12. On va pas le lire pour l'instant, je vais aller très vite. Et en fait, c'est Abraham, qui a 75 ans, reçoit la parole de son Dieu, qui lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison de ton père. Je ferai de toi une grande nation. Il fait des promesses. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Abraham s'en va avec le fils de son frère qui s'appelle Lot. Il s'en va. Dans Genèse 12, il donne une autre promesse. Je donnerai ce pays à ta postérité. Il est sur un mont, il voit Canaan et il voit toute l'immensité du territoire. Et Dieu lui dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Ensuite, Genèse 13, Il lui dit, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Genèse 15. Ton héritier sortira de tes entrailles. Pas d'autre indication, il sortira de tes entrailles. Compte les étoiles, telle sera ta postérité. Il dit tout ça à Abraham. Genèse 15. L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une colombe. Abraham s'exécute, il ouvre en deux la chèvre, il ouvre en deux la génisse, le bélier, de façon à faire un sacrifice et de faire une alliance avec Dieu. Il attend. L'Éternel, quand il arrive, il dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Donc ça, c'est dans le même temps que ça se passe. Et ensuite, il lui dit qu'il va faire alliance avec lui. Et donc, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve. Et là, il va désigner tout le territoire qu'il lui donne. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Canéens, des Guigazasiens, pardon, et des Jébusiens. En fait, c'est la totalité de Moyen-Orient. C'est énorme, c'est un territoire gigantesque. Alors, Dieu lui a promis un fils, puisqu'il lui a dit, de tes entrailles sortira un fils. Mais le fils ne vient pas, et ça prend du temps. Pourtant, Abraham croit en cette parole, et donc il va tenir pendant des années avant que sa femme Sarai vienne la voir et lui dire, mais écoute Abraham, tu t'es certainement trompé. Il faut peut-être aider Dieu dans cette histoire. Il faut peut-être que moi je suis stérile, je ne peux pas avoir d'enfant. Nous sommes vieux tous les deux. Et Abraham l'écoute et il dit, oui, peut-être, tu as raison. Et donc, sa femme, Sarai, va lui proposer comme femme Agar, une égyptienne, et qui va donner un fils, qui va donc s'appeler Ismaël. On va lui donner le nom d'Ismaël. Donc ça, c'est important de bien comprendre ce qui se passe. Abraham donc prend cette décision. À 99 ans, Abraham reçoit encore une fois l'Éternel qui lui apparaît et qui lui dit, Abraham, nous allons faire une alliance. Je te multiplierai à l'infini. Tu seras une père d'une grande nation. Ton nom sera Abraham. Il change de nom. C'est plus Abraham, c'est Abraham. Tu seras père d'une multitude de nations. Des rois sortiront de toi. L'alliance sera perpétuelle. Je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan. Alors là, c'est important d'écouter tout le pays de Canaan. Juste avant, je vous avais parlé du pays et je vous ai énuméré tous les pays qui pouvaient y avoir. C'était tout le Moyen-Orient. Et là, on se retrouve uniquement Canaan. Alors on va lire maintenant le livre de la Genèse, chapitre 17, à versets 9 à 21. Alors, Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de fils d'étrangers, sans appartenir à ta race. On trouvera circoncis celui qui est né dans ta maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Jusqu'où j'ai dit ? Jusqu'à 21. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais le nom de Sarah, elle change de nom. Je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils. Alors, je te donnerai d'elle un fils. Donc là, Abraham commence à se poser des questions. Il a un fils déjà, Ismaël. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur la face il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah âgée de 90 ans enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, ô, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui. Ça, c'est important. L'alliance est avec Isaac. Comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Voilà. Donc le livre de la Genèse est un livre des commencements. Mais pour les sages d'Israël, c'est aussi un livre prophétique. Parce qu'en fait, ils considèrent que ce qui est arrivé aux patriarches, aux anciens, c'est une prophétie qui peut arriver pour les fils d'Israël. Donc, ici, je vais faire une lecture prophétique, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont réfléchi, ce sont des rabbis qui ont vraiment une autorité et qui sont reconnus comme sages en Israël, et ça en diverses époques, et qui ont fait des écrits par rapport à la Bible, par rapport à la Torah. Voilà. Donc il faut mettre ce que je viens de dire, le chapitre 17, c'est ce qu'on vient de lire en partie, et le chapitre 12 et 15 de la Genèse. Donc Abraham est dans le pays de Canaan, et Dieu fait la promesse de lui donner un pays immense. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il donne en fait l'immensité du territoire, c'est-à-dire tout le Moyen-Orient. Or, au chapitre 17, comme je vous l'ai souligné, c'est que Canaan, enfin le territoire de Canaan. Que s'est-il passé? Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham de lui donner un fils, Sarah est âgée et stérile. Et Abraham est vieux, ils ne peuvent tous les deux pas avoir d'enfant. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Sarai va lui demander, on va aider Dieu parce que là, on a un problème. Ça fait des années qu'on attend cette promesse d'un fils, on ne l'a pas. Je vais te donner comme femme Agar, l'égyptienne, pour avoir un fils. Et donc, on a Ismaël qui arrive. À 99 ans, Abraham a de nouveau la visite de Dieu qui lui réitère donc les promesses pour la terre et le fils qui lui sera donné par Sarah. Alors là, voilà, il y a une différence, c'est que quand Abraham a reçu cette promesse, c'était la promesse d'avoir un fils qui sortirait de ses entrailles. Il n'y a pas dit de sortir de Sarai. Donc il ne savait pas que ça pouvait être sa femme. Est-ce que vous comprenez ? C'est qu'après, à l'âge de 99 ans, Dieu lui dit, c'est ton fils sortira des entrailles de ta femme, de Sarai, et non plus Sarai, puisqu'elle va être baptisée Sarah. Donc Abraham comprend qu'Ismaël, à ce moment-là, n'est pas le fils promis, et il a dans son cœur un doute. Il dit, mais il va être un gêneur par rapport à Isaac dans la promesse de Dieu. Et il demande à Dieu, Seigneur, mais que Ismaël vive devant ta face, ne le tue pas. Il va être exaucé. Donc, Dieu se retrouve avec un souci, c'est qu'il a deux enfants d'Abraham, et la loi juive à cette époque-là, on donne à l'aîné deux fois ce que. Enfin, on partage l'héritage et le territoire. Va y avoir deux parts pour Ismaël et une part pour Isaac. Donc double part pour Ismaël. Dieu dit à Abraham autre chose. Toi et tes descendants, vous garderez dans votre chair le signe de mon alliance avec vous. Et ce signe, c'est la circoncision. Donc là, on rentre dans un sujet un peu particulier qui nous concerne pas vraiment, mais pour les Juifs, ça veut dire quelque chose, et pour les enfants d'Ismaël, ça veut dire quelque chose. Abraham va immédiatement obéir à l'ordre de Dieu, c'est-à-dire qu'il va circoncire lui-même et aussi tous les mâles de sa maison, et aussi Ismaël qui a 13 ans. Et l'alliance comprend la promesse de Dieu, c'est-à-dire « je suis votre Dieu », mais elle comprend aussi la promesse de la terre. Ismaël est circoncis, il a donc droit à la terre. Donc maintenant, Ismaël a été circoncis et par conséquent, il a aussi un droit sur le pays. Dieu a partagé en deux le pays. La plus grosse partie, donc, c'est pour Ismaël. Mais Ismaël a un problème, c'est qu'il veut tout. Et il y a un épisode donc dans la Bible qui est mal compris. C'est la Genèse 21:2. On va le lire. 21:2. Alors, elle est mal comprise parce qu'elle est mal traduite. Alors, 21:2. Pardon ? Oui. Je cherche après. Donc, Sarah devient enceinte. Elle enfanta un fils à Abraham dans le... Non, c'est pas... Je suis en train de chercher. J'ai fait apparemment une erreur. C'est pas très grave. Robert retrouve là. En fait, l'épisode qui est mal compris, c'est que Sarah voit Ismaël rire. Et c'est ce qui est traduit dans. Je sais plus, j'arrive plus à le trouver. Le 9, verset 9. 21:9 alors. Alors je vais le lire, hein, parce que voilà. Je suis désolé, hein, dans la confusion. Ah voilà. Donc 21:9. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne. Avait enfanté à Abraham, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Alors, voilà, ça c'est incompréhensible, je dirais, quand on lit ça. Un enfant qui rit et on va le chasser de la maison. En plus, ils sont dans le désert, donc c'est la mort certaine pour cette servante, Agar, et pour Ismaël. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que En revenant au texte d'origine, donc dans la Torah, dans les textes hébreux, il est dit Asher Metzarek. Et ça veut dire effectivement rire ou jouer, mais il faut le voir dans son contexte. Et là, il faut aller chercher un autre verset qui parle de la même chose, mais qui nous fait comprendre ce que ça veut dire. Donc, cet autre verset, c'est Samuel 2:14. En fait, je vais vous raconter. Hein. C'est la guerre entre David et Avner après la mort de Saul. que les deux armées, il y a deux armées qui vont s'affronter. Or, ils sont tous les deux frères. Ce sont des, voilà, c'est des juifs comme ils sont, mais ils s'affrontent. Et donc, les généraux décident de dire, ben écoute, au lieu de faire une guerre fratricide, on va prendre les meilleurs et on va les faire, ils vont se battre ensemble. Donc les deux chefs annoncent que les jeunes gens se lèvent. Donc c'est Betchen in Izarku Lefanu. Et ça veut dire qu'ils jouent devant nous, mais qu'ils jouent à mort. Et donc ce qui se passe pour Sarah avec Ismaël, c'est que Sarah voit Ismaël faire un jeu à mort. Et ce qu'elle voit, et ça c'est pas écrit dans la Bible, mais c'est dans la tradition juive, c'est que Sarah voit Ismaël tirer des flèches vers l'enfant, vers Isaac, pour le toucher, pour le tuer. Donc à l'âge de 13-14 ans, enfin voilà, cet enfant a déjà la notion de territoire, il a déjà, j'y veux tout. Ismaël veut tout et donc pas de frère. Voilà. Donc ça, on peut mieux comprendre effectivement quand Ismaël rit et qu'on va le chasser, c'est qu'il y a une raison très très sérieuse, c'est qu'on a compris que Ismaël devenait un danger pour Isaac. Alors là, je vais introduire un midrash. Donc un midrash, c'est un écrit par des sages d'Israël, donc souvent des rabbis, des rabbins, et c'est soit traduit par une légende ou tout, en fait ça a pour but vraiment de nous éclairer sur la Bible. Donc il y a une histoire dans le livre de Daniel, Daniel 9, où chaque peuple est représenté devant le trône de Dieu. Ça, c'est les sages d'Israël qui pensent qu'il y a ça, puisque dans Daniel 9, il y a une histoire qui raconte ceci. Daniel prie pendant 3 semaines. Il veut prier son Dieu et il appelle au secours. Et il reçoit la visite de l'ange au bout de 3 semaines seulement. Lui, il a jeûné depuis 3 semaines, il prie depuis 3 semaines, et l'ange lui arrive au bout de 3 semaines et lui dit, écoute, le Seigneur t'a entendu tout de suite, mais il m'a fallu 3 semaines pour venir te voir. J'ai été retenu par les princes de Perse et par le prince de Javan. Et donc sur ce texte-là, les anciens, enfin les sages d'Israël ont dit, chaque nation a un représentant devant Dieu, un prince angélique qui est là. Et donc on pourrait dire que la France a son prince, que l'Espagne a son prince, que les Américains, etc., chacun a son prince. Voilà, c'est dans la Bible, hein, c'est que dit les sages d'Israël. Mais ça peut expliquer ce que va suivre derrière. Donc un midrash qui date du Moyen-Âge. Le prince d'Ismaël, donc voilà, quelqu'un qui se présente auprès de Dieu, prince d'Ismaël, qui vient se présenter, qui dit « souverain maître du monde, est-il vrai que celui qui est circoncis a droit à une part dans le pays promis ?» Et Dieu lui répond « oui, c'est vrai ». Et le prince d'Ismaël lui répond « alors, il doit donner à Ismaël et à ses descendants le pays que tu as promis à Abraham, parce qu'il a été circoncis. » Le prince continue. « Tu as promis ce pays à Isaac et à ses descendants, mais tu ne peux pas non plus ignorer les droits d'Ismaël sur ce pays. » Dieu dit « oui, Ismaël a des droits sur ce pays, parce qu'il est circoncis, mais, il y a un mais, sa circoncision est rec. » J'y reviendrai après. Elle est incomplète, imparfaite et limitée. C'est pourquoi les fils d'Ismaël posséderont le pays promis aussi longtemps qu'il sera rec de ses habitants. Alors rec a deux sens, hein, c'est-à-dire incomplète et vide. Donc là, dans ce cas-là, c'est vide de ses habitants. Tant que le territoire d'Israël sera vide de ses habitants, ils pourront bénéficier de ce territoire. La suite du Midrash dit: dans l'avenir, les fils d'Ismaël posséderont la terre sainte, car elle sera vide. Mais quand le fils d'Israël reviendront dans ce pays, les fils d'Ismaël s'opposeront à eux parce que leurs droits auront pris fin. Les fils d'Ismaël tenteront de dresser toutes les nations contre Israël pour qu'elles montent contre Jérusalem, pour que les fils d'Israël se seront constitués en royaume. Alors le royaume, c'était à l'époque, maintenant on pourrait dire État. Est-ce que j'ai encore du temps? Est-ce que je vais aller retourner? Parce qu'après on peut couper un peu et puis je referai un deuxième message. Je vais expliquer le Midrash. Et après, parce que là il est midi et 10, hein. J'explique le Midrash et on arrêtera et on refera un deuxième message. Parce que c'est assez conséquent. Donc, premièrement, il y a une revendication qui est faite par le prince d'Ismaël, qui est une revendication légitime sur le pays promis, et c'est un droit spirituel devant Dieu. Dieu a fait cette alliance, vous êtes circoncis, Abraham a circoncis Ismaël, donc il a le droit, un droit spirituel, d'avoir la terre. Mais le prince, il est malin. Il a enfermé Dieu dans un piège en lui disant, voilà, il est circoncis. Hein, il lui a tendu un piège. Mais Dieu lui dit, non. Il y a rec, c'est-à-dire que rec veut dire vide ou alors vaine et limité. C'est tout simplement la circoncision qui n'est pas la même. Un enfant de 8 jours a une circoncision complète parce qu'il y a... Quand on enlève la peau, il y a deux peaux. Il y a la première et la deuxième, qui est une fine membrane, qui est enlevée. À 13 ans, cette deuxième membrane n'existe pas. Et donc, voilà, déjà là, il y a une différence. Alors, c'est un peu particulier pour nous, hein, mais c'est comme ça que les sages d'Israël le disent. Ismaël a été circoncis à l'âge de 13 ans. Dieu dit à Abraham, je bénirai Ismaël parce qu'il est sorti de toi, par conséquent il deviendra une grande nation, mais ma promesse passera par Isaac pour être une bénédiction pour toutes les nations du monde et un grand peuple. Les fils d'Israël, les Arabes, possèdent le pays d'Israël pendant tout le temps de l'exil des habitants légitimes, des descendants d'Isaac, les Juifs. Donc il y a eu cette période-là, effectivement, où Israël était absent, ou peu nombreux dans le territoire, c'était la diaspora, ils sont partis. Aujourd'hui, ils reviennent, depuis 1948. On va dire même un petit peu avant, mais 1948, c'est la date où on annonce officiellement l'État d'Israël est né. Voilà, ce royaume se traduit aujourd'hui par État, comme je vous l'ai dit, et ce Midrash a été écrit au XIIe siècle après Jésus-Christ, à une époque où personne ne pouvait imaginer qu'un État israélite pouvait se créer. Alors ça, c'est troublant, parce que 12e siècle, il y a quelqu'un qui dit, oui, il va avoir un État, un royaume qui arrive en Israël. Je vais arrêter là, parce qu'il y a encore beaucoup de... Il y a un deuxième Midrash, plus un troisième. Voilà, donc... Moi, ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est qu'on a vraiment un grand espoir que Jésus revienne et qu'il revienne rapidement. On ne sait pas quand, hein, ça c'est vraiment... Mais voilà, il y a des signes qui sont en route. Israël se rassemble. Moi, ce que je souhaite, c'est que vraiment les chrétiens se rassemblent. Et donc, ce qu'on a vécu cette semaine, la semaine dernière, c'est des rapprochements entre chrétiens. Et ça, c'est l'esprit de Dieu qui nous pousse vraiment à nous rassembler. Pas pour fusionner et faire qu'une seule bouillie, non. Pour dire que nous sommes ensemble, entre frères et sœurs, on se respecte et on est l'un les uns envers les autres. On a comment dirais-je, un seul et même esprit vers Dieu, vers notre, vers Jésus. Voilà. Et donc, pour finir, je dirais que je cherche après ma feuille. Pour finir, dans Romains 15, verset 8, il est dit, je dis que le Messie Jésus a été fait serviteur des circoncis, donc des Juifs, mais aussi d'Ismaël, pour confirmer les promesses faites au Père, tandis que les païens, c'est-à-dire nous, bénissent Dieu pour sa bonté. Aussi est-il écrit, louez-le, nation, avec son peuple. Donc deux louanges qui vont se rejoindre pour Dieu. Voilà. Amen.